désolé de l'inconvénient. On va faire quelque chose. Je vais vous demander d'aller à la dernière page de vos notes. Dernière et avant-dernière, donc page 8 et 9. Oui, alors je vais juste prier, puis on va lire les questions tout de suite, parce que je vais vous demander de réfléchir aux questions pendant que vous m'écoutez. Vous n'aurez pas le temps de suivre du support sur vos téléphones ce matin, pendant le cours. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on peut prendre ensemble dans ta parole. Vraiment, je suis béni, Seigneur, de revoir ces grandes doctrines à travers ce cours et de voir comment elles viennent aussi s'appliquer concrètement dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous aider à grandir dans notre compréhension de ta parole. C'est tellement précieux. On parle de la doctrine du péché ce matin. C'est assez central à notre expérience humaine. Je te prie, Père, de venir nous éclairer, de venir nous parler, de nous montrer comment ça s'applique dans nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, on est dans le cours « Croyez-vous vraiment? » Et nous sommes à la leçon 8, la doctrine du péché. Et à la toute fin, vous avez une série de questions de mise en application, de réflexion un peu. Et j'aimerais ça, dans le fond, que je vais les lire. J'aimerais que vous les gardiez à l'esprit parce que je vais m'assurer de garder du temps pour vous entendre sur ces questions-là. D'accord? Donc, on ne va pas les distribuer. Là. Je ne vais pas vous mettre en boîte. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise d'échanger, c'est correct aussi. Mais on va les lire tout de suite, puis vous pourrez penser à certaines de ces questions-là. J'aimerais vous entendre votre réponse à la fin du cours. Premièrement, pourquoi la doctrine du péché est-elle indispensable pour comprendre correctement la condition humaine? Donc, je suis à la page 8 de nos notes. Deuxièmement, en quoi le péché est-il plus profond qu'un simple mauvais comportement? Troisièmement, dans Genèse 3, qu'est-ce que Satan propose réellement à Ève? Pourquoi cette tentation reste-t-elle actuelle? Quatrièmement, quels indices montrent dans votre propre vie que le péché cherche à recentrer l'existence sur vous-même plutôt que sur Dieu? Cinquièmement, parmi les trois mots étudiés, iniquité, transgression, péché, lequel éclaire le plus votre compréhension de votre lutte spirituelle actuelle? Pourquoi? Sixièmement, comment voyez-vous concrètement que le péché est une affaire de cœur dans le mariage, la parentalité, l'Église ou le travail, par opposition à une affaire de comportement. D'accord? Plutôt cœur que comportement. Sept, de quelle manière le péché aveugle-t-il une personne à son propre état? Huit, pourquoi avons-nous besoin de l'exhortation quotidienne d'autres croyants? 9. Y a-t-il dans votre vie un domaine où le péché exerce une influence asservissante ou addictive, une forme de dépendance? 10. En quoi Jacques 4 aide-t-il à relire les conflits relationnels d'une manière plus biblique et plus humble? 11. Quelles solutions humaines avons-nous tendance à absolutiser ou à mettre comme une solution, à prendre comme solution? Lorsque nous oublions la doctrine du péché, on va comme mettre un emphase trop grand sur des solutions humaines si on oublie la réalité du péché. C'est un peu lourd comme phrase. 12. Pourquoi peut-on dire que toute doctrine biblique du péché conduit nécessairement Jésus-Christ? 13. Comment la gravité du péché rend-elle la grâce de Dieu plus précieuse à vos yeux? 14. Dans quel domaine précis avez-vous besoin cette semaine, non seulement de mieux faire, mais de mieux courir plus consciemment vers la grâce du Sauveur? Et 15, comment cette doctrine peut-elle vous aider à servir pastoralement, paternellement, fraternellement une autre personne avec plus de vérité, de patience et d'espérance? Donc, gardez ça en tête. J'aimerais ça vous entendre sur quelques-unes de ces questions-là. On ne les couvrira peut-être pas toutes, là. À la limite, ça pourrait prendre le cours au complet, juste prendre le temps de répondre ensemble aux questions. Mais je pense que ça serait pas mal intéressant comme exercice. Je vais juste ajuster mon temps une seconde. Voilà. La doctrine du péché. Ça n'a pas de l'air excitant comme sujet, puis pourtant c'est très, très réel, n'est-ce pas? J'aime vraiment le livre de Paul Tripp. Je trouve que toute l'Église devrait lire ce livre-là, puis maîtriser ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses que je vois, là, plusieurs d'entre vous, soit que vous venez de foyer chrétien, vous êtes des chrétiens de longue date, plein de choses qu'on dit que vous connaissez déjà, mais on ne réfléchit pas toujours à leur application au quotidien. Le thème central de la leçon, la doctrine biblique du péché, révèle que le problème fondamental de l'être humain n'est pas d'abord extérieur, social ou circonstanciel, mais intérieur, moral et spirituel. Si le péché est la racine du mal humain, alors Jésus-Christ seul est l'espérance véritable de pardon, de transformation et de restauration. C'est important, la culture nous dit que ça, c'est faux. D'accord? Et une des choses les plus difficiles à expliquer à des gens, dans le fond, c'est assez simple, mais quand on ne sait pas par où le prendre, c'est compliqué, c'est la notion de péché. Les gens entendent le mot péché, puis ce qu'ils entendent, c'est des puritains religieux qui s'amusent à juger tout le monde, puis à voir le mal là où il n'y a pas de mal. Juste comme pour se donner bonne conscience ou pour se mettre au-dessus des autres. Et donc, c'est pas quelque chose qui est naturel à notre culture maintenant. Notre culture dit que le problème est plutôt extérieur. Souvent, c'est pas toi le problème. C'est social. Hein, c'est ton contexte social qui fait que tu agis ainsi, ce qui n'est pas entièrement faux. C'est circonstanciel. Ce que la Bible nous dit, elle dit non, c'est intérieur, moral et spirituel. L'objectif du cours, conduire l'étudiant à comprendre la nature biblique du péché, ses effets radicaux dans le cœur humain, dans la vie quotidienne, afin qu'il soit en mesure, qu'il mesure plus profondément son besoin de la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Le cours vise aussi à former un discernement chrétien capable de lire la vie, les relations et le monde à la lumière de cette doctrine. Si on fait un bon travail, vous n'allez pas partir d'ici en jugeant plus les gens. Parce que la première réalité du péché, c'est que c'est très intime et personnel. Donc, ça nous conduit plutôt dans l'humilité. Mais quand l'Église comprend mal cette doctrine-là, elle peut s'en servir pour être propre juste, pour se justifier. Et c'est un addon de Dieu, là, une circonstance de Dieu, mais on est dans Romains 8 ce matin pour la prédication. Donc, moi, j'étais dans cette doctrine-là toute la semaine en préparant le message. À la fin de la session, l'étudiant devrait être capable de définir bibliquement le péché, on l'a dit, dans sa dimension originelle, actuelle, intérieure, relationnelle. 2. Expliquer en quoi le péché est à la fois corruption de nature, transgression de la loi de Dieu et incapacité morale. 3 dimensions vraiment différentes. 3. Montrer que le péché est d'abord une affaire de cœur avant d'être une question de comportement. 4. Décrire certains effets concrets du péché dans la vie quotidienne. Aveuglement, esclavage, conflit relationnel, guerre spirituelle. 5. Expliquer pourquoi aucune solution purement humaine ne peut régler le problème fondamental de l'homme. 6. Montrer comment la doctrine du péché conduit nécessairement à Jésus-Christ comme second Adam, sauveur et rédempteur. Et 7. Appliquer cette doctrine à la vie personnelle, familiale, la vie d'église, la vie sociale. C'est bon? Un bon programme, hein? La doctrine du péché est une vérité au centre de la foi chrétienne. C'est-tu plate? Le message chrétien commence avec une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une question de lucidité, puis cette semaine, si on n'est pas capable d'être lucide, c'est parce qu'on ne suit pas les médias. Il y en a partout. De la violence, des meurtres, toutes sortes d'agressions, des vols. Le péché comme ligne de partage fondamentale entre deux visions du monde. Donc, ce que je dis lorsque je dis que la culture est fondamentalement contre cette notion-là, mais par exemple, toute l'approche au système carcéral maintenant, c'est une approche de comment est-ce qu'on... C'est quoi le bon terme? Pardon? Réadaptation, en quelque sorte, oui, c'est ça. On va aider les gens à changer. Albert Mohler, le président de Southern Baptist Seminary, dans son podcast cette semaine, il soulevait le fait que dans un État américain, et là, certains d'entre vous allaient être d'accord avec ce que ces politiques-là étaient en train de faire. Je vous le dis intuitivement, vous allez dire, mais pourquoi pas? Un État américain se préparait à dire, il faut réviser les peines des gens qui sont en prison depuis longtemps, parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui la même personne qu'ils étaient au moment où ils ont eu la peine. Certains d'entre vous vous dites, mais oui, pourquoi pas? Est-ce que le but, ce n'est pas la rééducation? Bien, le but premier de la justice, ce n'est pas la rééducation. C'est la justice. Le but premier de la justice, ce n'est pas la rééducation. Ça, on a un système d'éducation pour ça. Puis en prison, tu as même la possibilité de faire ton éducation. Mais le but premier de la justice, ce n'est pas la rééducation. C'est la justice. Maintenant, si on veut que les gens qui peuvent sortir éventuellement de prison fonctionnent bien après, pourquoi ne pas les éduquer? Ah oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais intuitivement, dans notre culture, je suis certain, certains d'entre vous, vous avez dit, « OK, attends un peu, là. Le gars s'est fait condamner à vie, ça fait 20 ans qu'il est en prison, il n'est plus la même personne, il a un bac, il a une maîtrise, il a fait des études en prison, il peut contribuer à la société, on le laisse sortir. » Et donc, on change complètement le système. Le but d'un prisonnier, quand il rentre en prison, c'est de te montrer le plus vite possible qu'il a changé. Une fois qu'il a changé, donc, c'est un système d'éducation. Est-ce que le système de justice, c'est un système de justice ou c'est un système d'éducation? T'as tué, est-ce que tu mérites une peine ou tu mérites une peine jusqu'à ce que tu nous prouves que tu ne tueras plus jamais? J'ai tué ton fils. Dans un an, je suis capable de démontrer que je ne tuerai plus jamais. Je peux sortir, je peux devenir ton voisin. Tu es en paix avec ça, si j'ai tué ton fils? Toute la culture dit que le péché n'existe pas, qu'on est défectueux et le but, c'est d'être fonctionnel. Ce n'est pas entièrement faux, hein? Le christianisme dit qu'on est défectueux, le Seigneur veut nous rendre fonctionnels. Mais le problème fondamental, c'est qu'on est pécheur, c'est qu'on a offensé un être juste qui est Dieu. Et maintenant, si vous parlez avec des gens qui viennent de plein d'endroits sur la terre, qui sont arrivés dans les 3-4 dernières années, ils vont dire, je suis d'accord avec toi. Parce que leur vision du monde, c'est que ça prend un système de justice. Maintenant, si vous parlez avec des gens qui ont été élevés en Occident au cours des 30-40 dernières années, oh, là, on est ailleurs complètement. Là. On est ailleurs complètement parce qu'on s'est dit, si quelqu'un fait le mal, ce n'est pas de sa faute premièrement, il est déréglé, il faut l'aider à être réglé. Et donc, le but du système de justice, ce n'est pas la justice, c'est la rééducation. Parce qu'il y en a qui veulent réagir à ça, je vous donne le droit d'être en désaccord avec moi. Ou avec la Bible, si vous voulez. Oui, Karine. Il y a un micro qui s'en vient à la course. Il y a un micro qui va s'allumer dans quelques instants. Vas-y, c'est bon. Oui. Oui. Mais donc, la justice, c'est une des choses qu'elle devrait traiter, c'est la protection du public. Fait que la justice, elle traite beaucoup de choses. Elle traite la question de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Est-ce que le public est protégé? Mais si je mets le côté justice, puis je dis, mon but, c'est de dire, est-ce que la société est protégée? Puis la justice n'est pas importante.
Non, peut-être pas pas importante, mais ça a une limite quand même. Là.
C'est une perspective. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. Maintenant, si j'adopte vraiment l'idée qu'il y a une limite, je vais aussi questionner l'éternité de l'enfer. Il y a quand même un bout à tout. Après 3 éternités en enfer, ça devrait suffire. Hein? À un moment donné, tu sais, l'annihilation de l'âme. Tu élimines son âme, il a assez souffert. Il y a un bout à tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est la question de la justice. Si tu offenses le Dieu parfait et qu'il exerce la justice, la condamnation n'est pas temporaire. Elle est éternelle s'il n'y a pas de grâce. Mais c'est une bonne question, Karine.
Ton point, c'est que ce qu'on vit sur la terre, c'est une représentation de ce qu'on va vivre au ciel. Parce que là, moi, je pensais que c'était juste terre à terre, sur la terre avec
En fait, mon point, c'est que le système de justice en Occident origine d'une vision judéo-chrétienne et il ne représente plus une vision judéo-chrétienne. Et donc là, on s'en va dans une autre trajectoire qui est une vision humaniste. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous allez parler avec les gens puis vous allez parler d'un Dieu juste, Si c'est un occidental bien endoctriné, il va dire, de quoi tu parles, un Dieu juste? Moi, je veux un Dieu d'amour, je n'ai pas besoin de justice, j'ai besoin d'amour. Si on veut apporter le micro à Miguel. Et si je parle avec quelqu'un qui vient de presque partout ailleurs sur la terre, la notion de justice fait encore beaucoup de sens. Oui, Miguel.
On a parfois l'impression que cette philosophie-là, d'espèce de rééducation, puis que le mal n'existe pas, ça date de 30-40 ans. Ça date de l'époque des Lumières, là.
Oui, c'est ça.
Et Voltaire, c'est eux qui ont vraiment développé cet aspect-là il y a 200 ans.
Oui.
Puis qu'aujourd'hui, puis un des aspects qui, aujourd'hui en Occident, est très problématique par rapport à l'aspect de la justice, c'est que cette justice-là, on dirait qu'elle ne peut jamais être coercitive. Mais si, on les voit même dans les méthodes d'éducation des policiers aujourd'hui. La coercition, il n'y en a pratiquement plus, là, alors que c'est ça la base fondamentale de la justice. Tu as fait un crime, bien tu dois payer à quelque part le juste prix de payer à la société l'aspect de la coercition.
Oui.
Donc, pour moi, c'est l'aspect de quand on parle de la justice de Dieu, bien oui, il y a un aspect coercitif qu'il faut absolument prendre en compte.
Exactement. Alors, la semaine dernière ou cette semaine, lorsqu'a été posée la question de... Est-ce que le Québec doit nécessairement... c'était quoi? Non? Il y a eu un jugement de la Cour suprême du Canada concernant le Québec avec le service de garde pour les demandeurs d'asile. Puis, donc, quelqu'un qui est un demandeur d'asile, et là, il y en a peut-être ici, là, je ne veux pas offenser personne, quelqu'un qui est un demandeur d'asile n'est même pas encore accepté comme réfugié, il est encore moins citoyen. Puis la Cour suprême a statué en disant, dès que tu fais la demande, on doit payer les services de garde pour tes enfants. Et la pensée derrière ça, c'est qu'un des juges de la Cour suprême dit, écoutez, la notion même de frontière est une notion discriminatoire. Donc, les frontières ne devraient pas exister. Ça a beaucoup d'enjeux, cela, là. Ça a énormément d'implications, là. Comprenez, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent migrer en Chine, mais il y en a beaucoup qui veulent migrer ici. Quand tu rentres au Canada, tu rentres dans un contrat social. Tu acceptes qu'il y a certaines règles qui vont être ici. Puis moi, je suis absolument pour. Une des choses qui me rend le plus fier, c'est qu'on accepte beaucoup de réfugiés au Canada. Je suis extrêmement fier de ça. Mais de dire que les frontières, c'est juste... C'est vrai que c'est discriminatoire. Toute loi est discriminatoire. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, vous comprenez? Mais dans la bouche de ce juge-là de la Cour suprême du Canada, il est en train de laisser entendre que c'était négatif. Et donc, oui, c'est vrai que ça remonte aux Lumières, mais les implications très concrètes de ça... On le voit de plus en plus, même dans notre vision de, admettons, comment est-ce qu'on va traiter un criminel. D'accord? Et puis, je parlais avec quelqu'un qui est un agent de réinsertion, justement, là, qui suit des gens qui sont sortis de prison. Et lui était profondément amer parce qu'il parlait de criminels sexuels. Puis il dit, il ne change pas. Maintenant, sa vision est encore plus pessimiste que la réalité. Là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible de changer. Mais ce que lui voit, c'est qu'il rentre en dedans. Fait qu'il dit, moi, ma job, c'est juste de les pogner. Il n'était pas du tout dans une logique de réinsertion, même si c'était ça sa job, parce qu'il dit, je sais, j'attends juste qu'il le fasse. T'sais. Mais le gars est complètement dévoré par l'amertume de voir qu'en fait, il y a des gens, un peu comme Karine disait, qui sont libérés avant même que la société soit en sécurité. Il faut que je revienne à mon sujet. Je suis désolé. Donc, le péché comme ligne de partage fondamentale en deux visions, c'était le point que je voulais faire. Il y a deux visions du monde. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce que je suis en train de dire, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ce point-là, c'est que si on veut faire des disciples, si on veut instruire nos enfants, si on veut annoncer l'Évangile, il faut être capable d'établir ce point-là. Autrement, le Dieu de la Bible, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du Dieu de la Bible, on a besoin d'un Dieu thérapeutique. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas thérapeutique, mais Dieu n'est pas premièrement thérapeutique. Comprenez? Il vient nous sauver d'un jugement éternel, premièrement. Après, il va nous transformer, on parle de ça dans Romains 8 ce matin. Deuxième élément, le péché a effacé le shalom originel. Le péché est une bombe nucléaire qui laisse une traînée pendant toute l'histoire de l'humanité. Ça devient un terrain invivable parce que ça a brisé la communion originelle qu'on avait avec Dieu. La chute n'a pas seulement entraîné une désobéissance ponctuelle, elle a provoqué l'effondrement d'un ordre de paix, de justice et de communion avec Dieu. Le péché est la bombe ultime, laissant derrière lui une traînée de destruction sur son passage. Ce n'est pas un missile Tomahawk, là. Comprenez, le terrain est complètement affecté jusqu'à l'intervention de Christ. Et on va ultimement dire jusqu'au retour de Christ. Troisièmement, le péché n'est pas seulement un acte, c'est une condition. Notre héritage adamique, on a hérité d'Adam et Ève une nature pécheresse. L'humanité est tombée dans la culpabilité, la corruption et la mort spirituelle. Le péché n'est donc pas seulement ce que nous faisons, c'est aussi ce que nous sommes par nature. Ça, c'est probablement le message le plus difficile à passer aujourd'hui en Occident. Parce que les gens sont convaincus qu'ils sont fondamentalement bons. Et c'est pour ça que vous allez entendre dans des prédications, je vais commencer un peu soft. Tu sais, quand tu fais quelque chose de cheap, là, puis après tu dis, ouais, j'étais ordinaire, c'est le péché. Puis là, je vais donner des exemples, je vais graduer, parce que si je commence à dire, non, mais t'es un menteur, ben non, moi je mens jamais. Ben, tu viens de mentir, là. Mais vous comprenez, donc il faut que j'aille avec quelque chose que les gens peuvent s'identifier, parce que les gens, fondamentalement, ils pensent que par nature, ils ne sont pas pécheurs. Non, ils sont bons, puis la vie a été difficile, puis ils se sont adaptés à une vie difficile, puis ben oui, j'ai développé quelques faux plis parce que les gens ont été durs avec moi, puis je n'ai pas eu ma chance, puis ben, ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Hein? On avait fait une série sur la conscience. Clément va recommander ce petit livre-là dans la recommandation de lecture pour ce mois-ci. Excellent livre qui parle du fait que la conscience que Dieu nous a donnée, elle vient de Dieu, mais affectée par le péché, ça devient une espèce d'élastique aussi, là. Tu peux l'étirer assez pour qu'il devienne lousse. Tu as besoin de la parole de Dieu pour qu'il soit bien aligné, que la conscience soit bien alignée. Et donc, cette idée qu'on est par nature, c'est notre condition de pécheur, c'est un des messages les plus difficiles à passer aujourd'hui à notre époque. Psaume 51:7, est ça, là. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est David qui parle puis il est en train de dire, « Je suis né pécheur. C'est ma nature. » Et plus on s'approche de Christ, plus on le reconnaît. C'était fascinant, j'ai eu des conversations avec un frère cette semaine, puis là, je retournais dans la Bible, j'allais étudier, tu sais. Puis quand Paul il dit, « Le plus grand des pécheurs, dont je suis le premier », là, je ne me souviens plus de la formulation exacte, c'est fascinant parce qu'il est en train de parler de lui au passé. Il fait référence au fait qu'il est un persécuteur de l'Église. Mais quand il dit, « Dont je suis le premier », il parle au présent actif. En grec, il y a différents temps. Et là, il est en train de parler au présent actif. Donc, Paul est en train de dire, « Je suis le plus grand des pécheurs. » Mais là, Paul, tu es quand même un apôtre. Tu es quand même, tu sais, quelqu'un qui marche avec Jésus. Tu t'es repenti de plein de choses. Il y a des gens sur la terre qui sont des plus grands pécheurs. Tu sais, en termes de comptabilisation du péché, là, il y en a qui ont une facture plus longue, tu sais, que toi. Mais Paul dit non, moi je suis le plus grand des pécheurs. Et ce que j'en comprends, comme plusieurs commentateurs, c'est que plus tu t'approches de Christ, moins tu as envie de dire « je suis le plus grand des saints ». Non, je ne suis pas le plus grand des saints. Tu as conscience des ramifications de ce combat-là avec la vieille nature. Ce n'est pas que je suis un pécheur fondamentalement, je me définis pas premièrement comme un pécheur, je suis un saint premièrement. Mais, à mes yeux, quand je m'approche de Christ, hein, je suis comme, voyons donc, c'est pas possible. Et je vous avoue que c'est mon expérience à moi à prêcher la parole de Dieu régulièrement. Je lis les Écritures, puis combien de fois je dis, mais Seigneur, comment je peux prêcher ça? Puis c'est pas là que j'ai des grands péchés cachés, là. C'est que plus tu t'approches de Christ, Éphésiens 2, 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce qu'on méritait. C'était la justice de Dieu de faire tomber sur nous la colère de Dieu. L'ADN du péché. Alors, c'est quoi le péché? Comment la Bible nous parle du péché? On parle d'autonomie, d'idolâtrie, de culte de soi. La tentation de Ève, c'était quoi? Vouloir être comme Dieu. C'est ce que le diable lui a proposé. Dans Genèse 3, Satan séduit simplement avec un fruit attrayant. Il ne séduit pas simplement avec un fruit attrayant, il séduit avec l'idée d'autonomie. Le cœur du mensonge satanique est celui-ci, l'homme peut vivre indépendamment de Dieu. Son expression ultime, c'est de dire « Dieu sera bien ce qu'il veut que je sois ». Ce que la majorité des gens qui sont bien rentrés dans la culture au Québec croient, n'est-ce pas? « T'as ton Dieu, j'ai mon Dieu, on se fait chacun notre Dieu, tu sais, puis ça va, c'est custom l'affaire. » Genèse 3, 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Oh, mais Dieu ne pêche pas, là. Vous ne serez jamais comme Dieu. Vous ne serez jamais comme Dieu. Satan, régulièrement, on voit dans les Écritures, c'est des demi-vérités. Oui, c'est vrai, vous allez perdre votre innocence, donc le concept du mal va être très clair dans votre esprit, mais vous ne serez pas comme Dieu, parce que Dieu n'est pas incliné vers le péché. Le péché est donc fondamentalement refus de dépendance, rejet de soumission et désir de souveraineté personnelle. Fondamentalement, c'est ça le péché. On renonce, on rejette notre dépendance envers Dieu. Et pour plusieurs, c'est ça leur conversion. Moi, c'était ça ma conversion. On m'a annoncé l'Évangile à partir de l'âge de 7 ans environ. J'ai commencé à fréquenter l'Église ici. C'est juste à mes 18 ans, au début de mes 19 ans, que j'ai dit, ma conversion, là, c'est une phrase. J'ai dit au Seigneur, c'est toi qui prends le volant, tu diriges ma vie. Ça, c'est ma conversion. Ça se résume à ça. J'abandonne, je cède mon autonomie. C'est toi qui diriges ma vie. Et pour plusieurs qui sont dans l'Église puis qui ont entendu l'Évangile puis qui comprennent ce que c'est l'Évangile, souvent c'est là que ça bloque. Souvent c'est là que ça bloque. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, des commentaires. Si je ne vois pas vos mains, vous me faites signe, s'il vous plaît. Donc, vouloir être comme Dieu, l'autonomie. Deuxièmement, l'essence du péché, c'est vivre pour soi-même. Le péché recentre la vie sur le « moi ». Il remplace Dieu par soi. Et là, ça s'exprime de toutes sortes de manières. Je vais faire mention dans la prédication tantôt une situation que j'ai vécue dans la semaine. Puis j'ai péché, puis ça m'a surpris. Je me suis défendu, mais c'était pas bon. Là, ça venait pas de l'Esprit de Dieu. Puis là, j'ai été confondu, là, j'avais honte de ça, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon aux frères envers qui j'ai péché. Mais après, j'avais encore honte. J'étais comme dans la confusion. Puis je m'examine parce que je pense que ma honte après était plutôt celle de ne pas avoir été l'homme super au contrôle de lui-même. Tu sais, j'ai perdu mon image. Mais les frères devant qui j'ai péché savent très bien qu'il m'arrive de pécher, là. Ils n'ont pas comme dit, « Oh, Yannick, tu n'as jamais péché de ta vie, qu'est-ce qui se passe? On pensait que tu étais parfait. » Ah, non, personne n'a fait le saut, là. Ils ont été offensés, je leur ai demandé pardon, ils m'ont pardonné. Merveilleux. Moi, après, je luttais avec ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui étais au centre, hein, la tentation, que je sois au centre. Puis là, mon image a été affectée, là. Hey, moi, je suis quelqu'un qui se maîtrise. Yannick, là, c'est quelqu'un de résilient. Vous voyez? C'est subtil. Au centre. Le péché recentre la vie sur le moi. Il remplace Dieu par soi. Il transforme les désirs, les besoins et les sentiments personnels en autorité suprême. J'aurais besoin de ceci, ça m'est dû. On vient de changer complètement, là. J'aurais besoin d'affection, là, parce que la journée a été difficile, ça a été épuisant, puis j'arrive, puis les gens qui pourraient me le donner, bien, ils ont vécu leurs affaires à eux aujourd'hui, puis ils ne sont pas attentifs à moi, puis ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir vécu d'autres choses. Ah, mais moi, je sens ce besoin-là. Ça m'est dû. Et là, si on manque, bien là, je ne suis pas bien avec ça, là. C'est encore l'expression du péché. L'essence du péché, c'est vivre pour soi-même. Ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 15, c'est que l'ADN du péché, c'est l'égoïsme. Fondamentalement, c'est ça. L'idole du moi est l'idolâtrie ultime. C'est pour ça que quand on n'est pas confortable avec l'idée de dire qu'un chrétien peut encore être idolâtre, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que oui, je le vois partout. Je le vois partout. C'est quand je prends le centre, quand je prends la place de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Le péché comme adultère spirituel. Le péché n'est pas seulement une rupture d'une règle, il est une trahison d'une relation. Il consiste à détourner vers d'autres objets d'amour la confiance et l'adoration qui reviennent à Dieu seul. Et c'est pour ça que l'image de cette relation conjugale entre Dieu et Israël est très forte, puis entre Christ et l'Église est très forte. C'est une trahison. C'est pour ça que David va dire, « J'ai péché contre toi seul. » Ben oui, mais c'est, je veux dire, factuellement, c'est pas très juste là, comme idée. Quand il est allé vers Bathsheba, il a péché contre beaucoup plus que juste Dieu. Il a péché contre son épouse. Il a péché contre sa famille. Il a péché contre sa nation. Il a péché contre Bathsheba. Il a péché contre Uri. Mais il dit, j'ai péché contre toi seul. Parce que le péché est une trahison. C'est une infidélité à celui à qui je devrais entière infidélité. Donc, c'est une rupture dans la relation. 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Tu ne peux pas avoir les deux. Tu es fidèle à un ou tu es fidèle à l'autre. « J'ai péché contre toi seul. » Psaume 51,6. Trois mots pour comprendre la nature du péché. L'iniquité, la transgression, le péché. L'iniquité, le péché comme corruption intérieure. L'iniquité désigne l'impureté morale profonde. Elle rappelle que le péché ne commence pas au niveau des gestes, mais dans une nature intérieure corrompue. Nous sommes fondamentalement corrompus. C'est difficile à communiquer aujourd'hui, mais c'est ça. Et lorsque je deviens chrétien, une nouvelle nature m'est donnée. Mais j'ai encore des combats avec la vieille nature. Elle n'est pas entièrement silencieuse. C'est pour ça que dans Romains 6, Paul nous exhorte à faire mourir les œuvres de la chair. Je dois m'y appliquer. Je dois porter attention. Elle me surprend. Après 30 ans de vie chrétienne, il m'arrive encore de dire, « Mais voyons, c'est venu d'où ce péché-là? » Des situations, je sais, des fois je vous choque, en vous partageant, dans la dernière année, j'ai raconté un matin où je m'en venais à l'église, puis j'ai croisé une joggeuse, une fille qui est en train de faire sa course à pied. Puis, comme dans mon esprit, je n'avais pas porté attention, tu sais, elle était habillée un peu leggings, là, bon. Fait que, dans mon esprit, je n'avais pas porté attention, j'arrête la lumière, je repars, je la recroise. Puis là, je viens de réaliser que la fois d'avant, finalement, je l'avais regardée pas mal longtemps. Puis là, j'étais confondu. Je m'en allais à l'église, je m'en venais à l'église pour prêcher, tu sais. Là, j'étais comme, ça va finir quand, cette affaire-là? Tu sais, j'avais pas médité de péché là, ce matin-là. Là. Je m'en venais à l'église. L'iniquité, le péché comme corruption intérieure. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et donc, je dois livrer un combat avec cette nature pécheresse-là constamment. Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Hein, c'est pas mal dans ta nature, un léopard, c'est dans sa nature d'avoir des taches. Ben, il dit, est-ce que vous pourriez faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal? La réponse de Romains 8, c'est oui. Mais, il nous arrive encore de pécher. Conséquence pédagogique, toute approche qui réduit le péché à quelques comportements isolés manque la racine du problème. C'est ce qui fait que certains chrétiens trouvent ça extrêmement dur d'être en psycho, dans toutes sortes de domaines comme ça, parce qu'ils ont l'impression qu'on n'aborde jamais le vrai problème. Comme, je vais te donner des méthodes pour ne plus faire le mal. Ça aide, c'est pas inutile. Tu sais, tu veux pas faire le mal, tu vas sortir de ta maison, les choses qui t'induisent à faire le mal, par exemple. C'est un bon truc, c'est une bonne idée. Ça ne veut pas dire que ça a réglé le problème fondamental, du tout. Et donc, toute approche qui réduit le péché à quelques comportements isolés manque la racine du problème. Les gens qui ne croient pas dans le fait qu'on a une nature pécheresse passent à côté de la nature du problème. Ils ne peuvent pas avoir la vraie solution. C'est impossible. Parce qu'ils sont aveugles à la nature profonde du problème. Transgression, le péché comme rébellion, rébellion volontaire. Transgresser, c'est franchir sciemment, volontairement, les limites fixées par Dieu. Le péché possède donc une dimension de refus conscient de l'autorité divine. En fait, Paul va tellement loin qu'il dit « La loi de Dieu est une tentation pour moi. » On aime l'idée de transgresser la volonté de Dieu. C'est une tentation. Des fois, c'est plus simple s'il n'y a pas de loi. Mais là, tu dis, je vais éduquer mon enfant, je vais lui dire, fais pas ça. Mais je sais qu'en lui disant, fais pas ça, je viens de lui dire, ah, peut-être que tu pourrais faire ça. Fait que là, il faut que je lui dise, fais pas ça parce que ça va être lourd de conséquences. Là, il faut qu'il ait peur. Parce qu'en lui disant, fais pas ça, je viens de lui donner une tentation. La transgression, le péché comme rébellion volontaire. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas comme un péché. On est attiré par cette rébellion-là. Et des fois, on va le faire en... On va dire quelque chose de méchant. C'est un conflit. La bonne chose à faire, c'est de te retirer juste de terre puis partir. Hein? Même l'insensé, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Ferme ta boîte puis va-t'en. Ton bon sens va revenir dans 15-20 minutes, dans une demi-heure, dans une heure. Tu reviendras demain. Normalement, Joseph m'avait appris, quand ça te brûle d'écrire un courriel à un membre d'église, là, écris-le puis envoie-le pas. Tu l'enverras dans 24 heures ou dans 48 heures. Ça brûle trop, là. Tu le reliras dans 24 heures ou 48 heures. Mais c'est fort en nous, ce désir de transgresser. Fait que des fois, on est dans un conflit, puis tu sais que ce que tu vas dire va blesser. C'est ça que tu veux faire. Paf! Tu viens de tout compliquer, là, tu sais. Tais-toi, retire-toi. Non, on est tenté de transgresser. C'est là. C'est notre vieille nature, mais c'est là. Le péché, le défaut d'atteindre la norme de Dieu. Donc, il y a trois éléments. Corruption intérieure, transgression, le désir d'aller contre la loi de Dieu et le fait qu'on n'arrive pas à atteindre les standards de Dieu, le défaut d'atteindre la norme de Dieu. Le péché révèle l'incapacité morale de l'homme à atteindre la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un refus, mais c'est aussi une impuissance. Et ça, on le vit parfois comme chrétien lorsqu'on vit des combats avec certains péchés. Puis là, tu sais, comme tu dis au Seigneur, regarde, Seigneur, je suis désolé, j'ai péché, je suis repentant, mais je ne sais même pas pourquoi je te confesserai mon péché, je vais pécher demain. Si vous avez lutté avec des dépendances, là, c'est pas évident. Puis là, on tombe dans un autre péché qui est celui de ne pas se repentir, puis de ne pas se tourner vers la grâce, puis on se laisse aller. Il y a des chrétiens qui vivent ça par rapport à la discipline des dévotions spirituelles. Vous avez un petit fond légaliste, là, puis là, ça fait 3 jours que tu n'as pas lu ta Bible. Ah, je recommencerai l'année prochaine. C'est quoi l'idée? Dieu est content si tu viens aujourd'hui. Il va pas. Jésus ne t'attend pas en disant « Ouais, ça fait 3 jours. » Non, c'est pas comme ça que Jésus nous accueille. Là. C'est correct, je peux dire « Seigneur, je suis désolé, tu vois comment je suis négligent, je manque de maturité. » Mais les Écritures sont claires. Ce que Dieu apprécie, c'est un cœur repentant. Parce qu'en toi et moi, Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait, là, malgré tout ce que tu peux en penser. Il est pas mal plus lucide que toi et moi. En ce qui concerne le péché, ce n'est pas seulement que nous ne voulons pas faire ce qui est juste, nous ne pouvons pas faire ce qui est juste. Donc, il y a une incapacité. Et c'est pour ça que, je ne me souviens plus quel prophète va parler, qu'on est brisé par notre iniquité, c'est dans Ésaïe. C'est l'idée qu'on est à la fois coupable et malade. Et donc, il y a lieu de juger un péché et d'avoir compassion de celui qui est en train de commettre son péché. Parce que je sais aussi que par nature, il est incapable de faire le bien. Et donc, Dieu a compassion de nous. Dieu nous regarde et il dit, vous êtes vraiment pathétique. pas en nous méprisant, avec compassion. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ. Il n'y a pas d'espoir sans l'intervention de Dieu pour l'humanité. Il n'y en a pas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le péché dans la vie quotidienne, c'est manifestation concrète. Le péché est une affaire de cœur. Alors ça, c'est un des éléments les plus importants pour les parents à retenir, mais c'est vrai dans la formation de disciples. Le péché est une affaire de cœur. Le péché doit être compris à partir du cœur. Les comportements mauvais procèdent d'un centre intérieur corrompu. L'espérance pour les pécheurs ne se trouve que dans la personne et l'œuvre du Rédempteur Jésus-Christ, parce que le péché n'est pas simplement une question de comportement, mais une question de cœur. D'où l'idée qu'on a besoin d'un cœur nouveau. Maintenant, nous, on veut traiter les comportements. Hein? Puis même dans nos relations de couple à la maison, on se dit, regarde, je vais imposer des règles, on va changer les comportements. Mais je dois toujours viser le cœur, pour moi-même, pour les gens autour de moi. C'est correct de mettre des règles, c'est correct de dire, bien là, tu es en train de taper ta petite sœur, tu vas arrêter ça. Je vais adresser le comportement, je ne vais pas dire, comment tu sens ça? Non, tu vas arrêter de taper ta sœur. Fait que je vais mettre des règles. Mais ça ne suffit pas de mettre des règles. Parce que quelqu'un peut rentrer dans des règles. On peut te conditionner à faire toutes sortes de choses, mais en fait, le cœur n'y est pas du tout. Et c'est comme ça qu'on produit des petits religieux qui, lorsqu'ils réussissent à faire mieux que les autres, regardent les autres autour d'eux et disent « Ah, c'est bien que tu es un loser, toi. Tu n'as pas été élevé dans une bonne famille. Regarde-toi aller. Pas de maîtrise de soi. Ah, mais est-ce que tu t'entends penser? T'es dévoré par le péché d'orgueil. » C'est intéressant, dans l'Église catholique, il y avait les péchés véniels et les péchés mortels. L'orgueil dans les péchés mortels. Intéressant. Le péché révèle l'incapacité morale de l'homme à atteindre la gloire de Dieu. C'est ça la réalité. Donc, c'est une affaire de cœur. Dans Matthieu 15, 18, 19, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Jacques 1, 14, 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ça vient de nous. Donc, encore une fois, au niveau de l'éducation, en éducation, on ne peut pas se contenter de gérer des comportements. Dans le mariage, on ne peut pas espérer un changement durable par des règles. Regarde, on va se donner des règles à la maison. Oh, mais ce n'est pas suffisant, c'est pour ça que tu vas avoir une relation avec ton épouse. On veut prier ensemble, on veut aller ensemble dans les Écritures, on veut prendre soin du cœur. On veut être ensemble dans une relation, dans l'accompagnement pastoral, dans la formation de disciples. On veut parler de cœur. Ça me permet d'aller vers l'Évangile. Le péché, deuxièmement, rend aveugle et trompe. Le péché ment, maquille le mal et le bien, rend tolérable ce qui devrait nous attrister et participe à notre aveuglement moral. J'étais, au début de la semaine, je faisais une retraite encore avec mes deux amis, François Turcotte et Stéphane Gagné. 46e fois qu'on fait ça deux fois par année, 46e retraite. Puis après 24 heures avec les gars, j'ai dit aux gars, ça me fait du bien d'être avec vous. J'ai plus le goût de marcher dans la sainteté. Juste par les conversations qu'on a, les échanges qu'on a, il n'y avait rien de majeur qui s'était passé, mais la communion des saints, être avec les saints, m'attire vers le bien, enlève les mensonges que j'ai tendance à tolérer dans ma vie, parce que le péché ment. Ben, écoute, tu es en train de travailler sur tel péché, là, tu sais, fait une chose à la fois, là, tu sais. Non, mais c'est un péché pareil. Non, tu es en train de travailler sur quelque chose de plus important. Le péché ment. Maquille le mal en bien, rend tolérable ce qui devrait nous attrister. Et un des plus grands défis pour l'Église, c'est de vivre dans la culture qui définit comme étant bien ce qui est mal, puis mal ce qui est bien, et de ne pas être endoctriné par la culture. C'est un des plus grands défis. Et je vous le dis, l'Église développe des intuitions, je vais le dire comme ça, qui sont diaboliques. Certaines de vos intuitions sont potentiellement à l'opposé de ce que la Bible dit. Puis c'est rendu des intuitions. Comme votre première manière de penser, c'est ça. C'est parce que vous avez été endoctriné par la culture. Et donc, j'ai besoin de la parole de Dieu, la loi de Dieu, pour la mesurer et d'être attentif. lorsque la loi de Dieu me choque. Pourquoi la loi de Dieu me choque? Qu'est-ce qui se passe? C'est où que le baromètre de ma conscience a été comme endoctriné? Parce que le péché m'maquille. Le péché asservi, c'est lui qui nous conduit dans toutes les dépendances qu'on peut vivre, constamment. Le péché complique toutes les relations. Les conflits humains sont alimentés par les désirs pécheurs qui règnent dans le cœur. Le problème ultime, ce n'est pas d'abord horizontal, c'est vertical. Le péché rend la vie quotidienne conflictuelle et guerrière. Le péché fait la guerre à notre âme. Aux relations, c'est un agent de destruction. Et donc, pour moi, le bénéfice de dire, moi, je suis le plus grand des pécheurs à mes yeux, il est fondamental. Je crois profondément qu'il y a le potentiel en moi, maintenant, par la grâce de Dieu, il y a un autre potentiel qui est là, c'est l'Esprit Saint. Mais dans mon vieil homme, je crois que j'ai le potentiel de commettre tous les péchés. Et ça, je le crois depuis, je le croyais avant d'être chrétien, puis je le crois depuis. Et c'est ce qui fait que des fois, tu sais, ceux qui chassent les gens de la Gestapo ou les nazis vont trouver quelqu'un qui vit aux États-Unis depuis 40 ans, ses grands-papas, tu sais, ses papis, comme c'est l'homme le plus gentil du monde, mais tu découvres que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a massacré des gens, il a violé, il a tout fait. Tu dis, comment ça se fait? C'est pas que cette personne-là s'est convertie, là. C'est pas que cette personne-là s'est convertie. C'est que ce potentiel-là est là parce que le péché a une puissance de dévastation. La doctrine du péché est l'incapacité des solutions humaines. J'en ai parlé quand même pas mal. Oui, j'aimerais aller avec les questions. Juste le point C, donc à la page 9, au milieu de la page, « Toute théologie biblique du péché mène à Jésus ». J'aime cette citation. « Toute théologie du péché, qui est constamment biblique, est une longue route tortueuse, rocailleuse et sombre qui vous conduit à Jésus. » Une fois que tu comprends la nature du péché, que tu vas vers les Écritures, tu vas finir avec Jésus, parce que c'est juste lui qui vient régler. Si vous allez au point 6b, Christ répond à chaque dimension du péché. Christ répond à chaque dimension du péché. À l'iniquité, il apporte la purification. À la culpabilité, il apporte le pardon. À l'incapacité, il apporte la puissance. À l'esclavage, il apporte la liberté. À l'aveuglement, il apporte la lumière. À la guerre, il apporte la victoire finale. Il est la seule réponse à l'horreur du péché. Il est le seul rocher d'espérance. Et donc, la grâce ne va pas minimiser le péché. Ce n'est pas parce que je suis sous la grâce que je vais moins parler du péché. Non, j'ai un remède. Le pardon de Dieu, puis la restauration que la grâce produit en nous. Donc, j'aimerais ça savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? On va avoir besoin du micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur une de mes... combien qu'on avait de questions? Une de mes 13 questions. Est-ce que vous voulez que j'en relise, puis on y va à main levée pour voir si j'ai un brave qui veut se lancer? J'aimerais ça qu'on puisse échanger un peu. Pourquoi la doctrine du péché est-elle indispensable pour comprendre correctement la condition humaine? Quelqu'un qui veut s'essayer là-dessus? Je vais nommer des volontaires bientôt. En quoi le péché est-il plus profond qu'un simple mauvais comportement? J'ai besoin de savoir si vous êtes capable de communiquer ça à quelqu'un aujourd'hui, là. Vous savez que c'est comme ça qu'on sait si on a compris un concept, c'est si on peut l'enseigner. Quelqu'un qui veut juste nous résumer ça dans vos mots. En quoi le péché est-il plus profond qu'un simple mauvais comportement? Pardon? OK. Veux-tu juste le répéter dans le micro? Je vais demander à quelqu'un d'apporter une nuance. Vas-y,
Nicole. Pour moi, c'est pareil. Le mauvais comportement puis le péché profond, pour moi, c'est pareil.
OK. Quelqu'un qui veut apporter une nuance? En quoi le péché est-il plus profond qu'un simple comportement? Denis.
Il y a une raison pour laquelle tu fais ce comportement-là. Il y a une cause, pour moi, il y a une cause plus profonde. C'est une envie, quelque chose chez ton voisin, quoi que ce soit, si, c'est pas ton comportement qui juste suffit, c'est quelque chose d'intérieur qui dit, bon, moi, pourquoi moi je ne l'ai pas? T'sais, il me semble que je le mériterais plus que lui.
Quand Jésus, merci Denis, quand Jésus a dit, il est écrit, hein, on vous a dit que si tu vas vers la femme d'un autre, tu as commis l'adultère, moi je te dis que si tu l'as convoité dans ton cœur, tu es coupable d'adultère. Jésus est en train de pointer vers le cœur. Il n'y a pas eu de comportement. Il n'y a pas eu de comportement, mais il y a quelque chose derrière les comportements. Donc il y a une autre couche qui est derrière. C'est bon? On y va. Si jamais vous avez une question, vous voulez répondre, vous pouvez me devancer dans les questions. C'est bon? Sinon, moi, je les descends puis je cherche des volontaires. Il nous reste encore 5 minutes de torture. 3. Dans Genèse 3, qu'est-ce que Satan propose réellement à Ève? Pourquoi cette tentation reste-t-elle actuelle? C'est plus la deuxième partie qui m'intéresse. En quoi est-ce que ce qui a été proposé à Ève nous est encore proposé à nous aujourd'hui? Quelqu'un qui veut répondre à ça? Oui?
Moi, je vais y aller. C'est juste, on le voit très bien dans tout ce qui est exprimé. L'idéal de notre société, c'est vraiment un idéal d'autonomie, d'autosuffisance. Puis c'est exactement ça la promesse de Satan à Ève, d'être autosuffisant, de ne pas avoir besoin de penser à Dieu pour sa subsistance. Fait que oui, c'est très actuel.
Excellent. Quand j'étais jeune chrétien, les gens nous disaient souvent que la religion, c'était une béquille. C'était leur manière de dire, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ils sont autonomes, ils sont bien, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin de béquilles. C'était exactement ça le concept qui était là. 4. Quels indices montrent dans votre propre vie que le péché cherche à recentrer l'existence sur vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait le courage de partager? Quand est-ce que vous voyez que, tu ramènes ça à toi, ça revient à toi? Moi, je vous donne des exemples de moi tout le temps. Là. Quand est-ce que le péché, ou dans quels indices vous avez dans votre propre vie que le péché cherche à recentrer l'existence sur vous-même? Que vous avez un exemple? Oui, Paola, le micro s'en vient.
Ça me fait penser quand je corrige mes enfants. Je deviens fâchée parce qu'ils ne m'obéissent pas. Donc, j'ai dit, c'est quoi la raison que, pourquoi je me rends fâchée? Est-ce que parce que ma voix n'a pas été écoutée, parce qu'il n'a pas fait ce que j'ai voulu, ou c'est parce que vraiment j'ai la douleur, qu'ils sont dépassés la limite de l'obéissance, puis qu'ils sont plutôt...
C'est un excellent exemple. C'est un excellent...
Désobéir Dieu, c'est ça.
Oui, c'est ça. Moi, je peux être insulté de ne pas être respecté comme parent. Ah, mais c'est pas toi, là, le centre de l'univers, c'est le fait que tes enfants font le mal. Tu as un excellent exemple. Merci, Paola. Excellent. Parmi les 3 mots étudiés, iniquité, transgression, péché, lequel éclaire le plus votre compréhension de votre lutte spirituelle actuelle? L'iniquité, c'était cette idée qu'on est fondamentalement corrompu. La transgression, c'est que on cherche, la rébellion nous pousse à chercher à aller contre la loi de Dieu. Et le péché lui-même, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre les standards de Dieu. Ça parle beaucoup de notre impuissance. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ces 3 mots-là? Est-ce qu'il y en a un? Oui, Lucie. Il y a un micro qui s'en vient en courant.
Moi, je dirais plus le péché, parce que toutes les fois que je prie, avant d'être sauvée, j'ai l'impression que j'en faisais beaucoup moins. Puis à cette heure que, comme tu disais, quand tu te rapproches de Dieu, j'ai l'impression que ça finit jamais. Là, que c'est toujours, je suis toujours après demander pardon chaque fois. Parce que, puis il y en a là-dedans que c'est à tous les jours, puis ça revient, puis ça revient, puis je suis pas capable de m'en débarrasser. Ouais. Fait que moi, c'est ça, c'est vraiment le péché.
Cette incapacité à atteindre les standards de Dieu.
Voilà.
On est confronté à ça. Puis il faut apprendre à se reposer dans la grâce pour vivre la joie. Mais merci Lucie. Merci d'oser partager ça. Comment voyez-vous concrètement que le péché, Comment voyez-vous concrètement que le péché est une affaire de cœur dans le mariage, la parentalité? Je pense qu'on a répondu un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple? Ça va? De quelle manière le péché aveugle-t-il une personne sur son propre état? Denis.
En comparant aux autres, au lieu de se comparer à la loi de Dieu.
Oui.
Tu regardes aux autres, tu dis, bon, tu fais bien, là.
Oui. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas. Hein? Comme ce pécheur, ce publicain. Le micro est arrivé.
Un, deux. Je dirais qu'on cherche toujours à se justifier face à ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Puis, on trouve des raisons pour croire que, bon, c'est correct.
On a des excuses pour se...
Des petits péchés, des gros péchés.
Oui, pour se donner bonne conscience. Parce qu'à la fin, on cherche à dormir avec notre conscience, pas avec celle de Dieu. Mais c'est parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Si j'essayais de vivre avec la conscience de Dieu, je dormirais plus en paix. Parce que je n'aurais pas besoin de me compter des mensonges. Je peux venir à Dieu et dire, Seigneur, aujourd'hui, je vois bien que j'ai péché là, là et là. Et je sais que je ne suis plus sous la condamnation. Romains 8, ce matin, je ne suis plus sous la condamnation. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et vraiment, je suis repentant de ça. Demain, je vais chercher à faire mieux. Je vais marcher dans la plénitude de ton esprit. Mais si je ne viens pas confronter mes actions, non seulement à ma conscience, mais à celle de Dieu, ben là, je suis obligé comme de... Hein? Je suis obligé de tricoter, de mettre du glaçage sur le gâteau, là, pour l'embellir. Mais ça ne veut pas dire que ça me procure une vraie paix et un vrai repos. Excellent. Je pense qu'on va s'arrêter ici, messieurs, dames. Je vais prier. Vous avez encore des bonnes questions à discuter. Si vous allez prendre un café là, avec quelqu'un cette semaine. Des belles conversations à voir. Très édifiantes. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que...